Chapitre 5e. Enfin, j'arrivai à Sénac, au pied des Pyrénées. Je les regardais chaque matin de ma fenêtre et l'idée que je devais les escalader me donnait un malaise. Rien ne semble plus redoutable que des montagnes dans le lointain, où c'était le brouillard, où c'était la pluie, ou encore la teinte unie d'une journée grise. Derrière la première chaîne, il y en avait d'autres. Après être monté, il faudrait redescendre, puis remonter encore. Une journée entière serait nécessaire pour réparer la moindre erreur d'itinéraire. Je pouvais me trouver en présence d'obstacles infranchissables. Devant ce mur, je me surprenais à penser naïvement qu'il était si facile à franchir pour un oiseau. Je songeais alors à faire la connaissance d'un guide. L'hôtel que j'habitais avait été un endroit de villégiature. Je disais à tout le monde que je venais me reposer. L'impression était décourageante de me trouver dans cette ville frontière où il lui semblait que tout le monde ne songeât qu'à passer à l'étranger et d'y trouver exactement la même vie que dans l'intérieur. On eût dit qu'il n'y avait pas de frontières proches. Personne ne faisait attention aux écriteaux, aux flèches, vers l'Espagne. Les gendarmes n'étaient pas plus nombreux. À la gare, la surveillance ne semblait avoir rien de particulier. Et pourtant, chaque jour, des gens de mon espèce devaient débarquer. J'avais pu trouver une paire d'espadrilles. Je sortais ostensiblement sans chapeau. J'avais acheté une canne comme en avaient les gens du pays. Devant ceux qui pouvaient m'observer, je posais aux touristes. Un matin, j'eus tout à coup la révélation que ce que je projetais n'était pas si facile que cela, et que toute apparence inoffensive cachait quelque chose. Je me sentais un peu suspect de n'avoir pas d'autre raison à donner à ma présence que des raisons de goût ou de hasard. Je ne sais pas s'il le faisait exprès, mais le patron de l'hôtel m'indiquait des excursions dans la montagne. Il me donnait des adresses d'endroits où je pourrais boire du lait, où je pourrais même trouver du saucisson du pays, comme si j'étais vraiment venu pour cela. Il y avait de quoi être inquiet, car il n'était pas possible que la vie pût se dérouler aussi simplement si la police n'était pas sûre de son fait. Alors que dans tant de villages où il n'y avait absolument aucun horizon, tout le monde me regardait avec méfiance, ici tout étranger était accueilli avec le sourire. Et ce sentiment d'une poigne de fer derrière les mairies me faisait hésiter à me renseigner, car je me disais que c'était là qu'on nous attendait. Tant que j'étais un touriste, personne ne bougeait, mais au premier geste, on serait impitoyable. Cette difficulté inattendue m'ôtait tous mes moyens. Je me dis alors que j'avais été idiot. Une de mes grandes fautes depuis mon évasion, ça avait été de ne jamais rien préparer, de ne jamais demander conseil. Je m'étais considéré comme seul et je n'avais jamais compté sur personne. Or, il m'apparaissait à présent que si au lieu de venir ici, j'étais allé à Saint-Gaudens ou ailleurs chez des amis sous le même prétexte, j'aurais pu au moins parler, me renseigner. Mais enfin, cela ne m'avait pas trop mal réussi jusqu'à présent, puisque j'étais à la veille de voir mes peines finies. Cette proximité, malheureusement, commençait pour la première fois à me faire douter de moi. Je revoyais tout ce que j'avais vécu depuis 2 ans, depuis 3 ans même, puisqu'au fond, le drame avait commencé non pas au moment où j'avais été fait prisonnier, mais au moment où j'avais été mobilisé. Et le sentiment que tout cela était fini, que j'étais à la frontière espagnole, que ce soir même, si je voulais, je pouvais être sauvé définitivement, me faisait paraître le danger d'être pris à la dernière minute comme une catastrophe effroyable, comme un de ces coups affreux du destin, la foudre tombant sur une noce, un rescapé faisant une chute terrible dans un escalier, etc. Et ce sentiment effroyable ne me quittait plus, si bien que je me sentais comme paralysé. Avoir tant fait pour en arriver là. Et je me disais que c'était ma faute, j'avais trop attendu. Quand on vit comme je vivais, il ne faut jamais se mettre dans une position où l'on soit amené à réfléchir. Il faut agir sans cesse. Or, je m'étais attardé à Lyon, puis à Saint-Étienne, puis à Toulouse. Je n'aurais pas dû m'arrêter une seconde avant que tout fût accompli. Par ma faute, je me trouvais devant un obstacle qui me semblait immense, alors que si j'avais agi autrement, je l'eusse probablement franchi, comme le reste, sans m'en apercevoir. Le soir, je restais dans la salle à manger de l'hôtel. Il y avait beaucoup de monde. J'avais observé mes voisins avec la crainte de trouver quelqu'un qui fût venu là avec les mêmes intentions que moi. Mais personne ne me semblait dans mon cas. Il y avait bien pourtant un homme seul, d'une 50aine d'années, mais il ne faisait aucunement attention à moi. Et ce détail me laissait croire qu'il n'était pas venu pour la frontière. Il n'avait pas remarqué mes regards. Il y avait une femme avec un enfant, un vieux ménage, enfin toutes sortes de gens paisibles. Quelquefois, je me demandais si tous ces gens ne jouaient pas la comédie comme moi, et j'étais pris de terreur à la pensée d'un échec, de quelque chose qui ferait que dans la suite, les conditions de passage seraient moins bonnes encore. Je ne me décidais toujours pas à tenter l'aventure car je ne savais pas comment faire. J'allais, après le déjeuner, prendre une tasse de sucédané de café dans le plus grand établissement de la ville. Il n'était guère différent de ceux de toutes les villes que je venais de traverser. Mêmes habitués, mêmes caissières, même atmosphère, mêmes efforts pour essayer de vivre comme avant, même regret de ne pouvoir satisfaire la clientèle. Je pensais chaque fois que je trouverais quelqu'un qui me donnerait des conseils, des indications. Il faisait une chaleur étouffante. Je retournais ensuite à mon hôtel. Je commençais à connaître beaucoup de monde, mais il m'était impossible de demander quoi que ce fût. Rien n'est plus agaçant que de ne trouver personne qui puisse nous aider dans un endroit où ce genre de gens doit pulluler. Et plus cela allait, plus cela devenait difficile. J'avais l'impression que je ferais mieux de revenir sur mes pas et d'aller ailleurs. En effet, dans cette sorte d'affaire, quand on n'aboutit pas tout de suite, quand dès le début on ne trouve pas ce qu'on cherche, il se produit un phénomène curieux. C'est qu'ensuite, même si nous avons des perspectives de réussite, le fait d'être resté quelques jours à errer nous engourdit dans des habitudes d'inertie, et au moment où tout à coup nous agissons, nous attirons naturellement l'attention. Plus les jours passaient, plus j'étais l'esclave de l'attitude que j'avais prise et qui était justement de paraître ne rien chercher, si bien que je me rendis compte que même si quelque chose se présentait, je n'oserais plus en profiter. Il était inutile que je reste plus longtemps ici.